RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre marmotte, le maître Yodu, Johan Durand, athlète de l'équipe de France depuis plus de 20 ans. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît. Bah, je suis bien réveillé ce matin, ça va.
Ah bah ça va, ok. Bon, t'es en forme?
Ouais, impeccable, écoute, tout
tu
roule.
Tu reconstruis les bases tranquillement de l'entraînement? Ouais.
Eh oui, faut repartir. Mais c'est pas, moi, c'est pas ce qui me déplaît le plus. Tu vois, il y a des gens, quand l'heure de la reprise sonne, ils veulent tout de suite courir vite, aller se saigner sur des séances de fractionnés sur la piste. Ouais. Moi, j'aime bien repartir tranquillement, faire du renfo, faire un peu de vélo.
Et voilà.
On reprend tranquillement.
C'est la passion pure et dure de la course à pied. Merci à tous pour le soutien sur Instagram, le compte RMC Running, sur le soutien sur Strava également, le club RMC Running. Continuez de poster vos activités, à chaque fois on les voit et ça nous fait bien plaisir. Et continuez de noter le podcast sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Laissez des notes et des commentaires, comme ça, ça permet à RMC Running de grandir. En plus, la thématique du jour va vous parler à tous, c'est l'importance du sommeil dans la pratique sportive. Et la performance, vous allez le voir, on a convoqué le meilleur invité possible, Mathieu Nédélec, docteur en sciences du sport, chercheur chargé de la récupération et du sommeil à l'INSEP, sera avec nous. Il est l'auteur du livre « Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs » et il va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Combien d'heures faut-il dormir par nuit pour justement optimiser son sommeil et sa récupération? L'importance des routines, la vigilance en période d'entraînement et de compétition, les risques engendrés par un sommeil trop court ou trop saccadé. Toutes ces questions, vous voulez poser, on y répond dans un instant. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, préparez les oreillers, c'est parti pour RMC Running. Mathieu qui est en studio avec moi. Salut Mathieu.
Salut Benoît.
Sois le bienvenu dans ce podcast RMC Running, une thématique qui parle à tous. Déjà, question très simple, tu bosses à l'INSEP, est-ce que toi tu pratiques du sport, est-ce que tu fais de la course à pied?
Ah oui, je suis passionné de course à pied.
Ah bah excellent.
J'étais avant footeux et puis progressivement je me suis orienté vers la course et
okay.
J'adore ça.
Pourquoi t'être spécialisé comme ça, t'es docteur en sciences, pourquoi tu t'es intéressé au sommeil et notamment au sommeil des grands sportifs?
En fait, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la fatigue et la récupération des joueurs de football okay. professionnels. Et puis c'était un enjeu parce que les calendriers étaient déjà surchargés, il y avait beaucoup de matchs. Après les matchs joués en soirée, en fait, c'est difficile pour les joueurs de trouver le sommeil.
C'est sûr.
Et puis quand ils doivent rejouer en Coupe d'Europe 2-3 jours après, voilà, la nuit de sommeil qui suit le match et puis le sommeil à l'échelle de la saison, il est particulièrement important. Et donc en fait, progressivement, moi je me suis orienté, je me suis d'abord intéressé à toutes les stratégies de récupération qui existent. Et en fait, le sommeil, c'est la base.
Ouais.
C'est la stratégie numéro 1 pour bien récupérer. Et du coup, j'ai décidé de me concentrer dessus.
Il y a quelques semaines, on a reçu Major Mouvement, souviens-toi, Yodu, évidemment oui. Le kinéstar des réseaux sociaux, et on lui demandait les bonnes pratiques pour justement la prévention des blessures et tout. Il a dit, mais les gars, vous prenez la tête, déjà dormez bien. c'est la clé de tout. Mathieu, tu vas forcément aborder dans ce sens.
Bah ouais, effectivement, la récupération et le sommeil, c'est la base de la récupération. Bien dormir, bien manger, voilà, c'est déjà une grosse partie du travail qui est fait. Mmh. Et effectivement aussi, on pourra peut-être en parler sur la prévention de la blessure. Ben, c'est vrai qu'un bon sommeil, ça permet aussi de limiter le risque, en tout cas.
Là, on sort un peu du running, mais tu me parlais de footballeur. Il y a la Coupe du Monde qui a démarré aux États-Unis. C'est une problématique supplémentaire pour eux aussi. Il y a le décalage horaire qui a dû être digéré. Il y a les fortes chaleurs à affronter durant les matchs. C'est une problématique à prendre au sérieux pour les staffs des équipes nationales?
Bah oui, tout à fait. C'est des facteurs de stress récurrents dans le sport de haut niveau. Là, on parle du football, mais toutes les disciplines sont concernées. Avec effectivement des compétitions multiples sur la saison, vers l'est, vers l'ouest, de la fatigue, des décalages horaires à gérer. Ensuite, effectivement, une adaptation sur place, un nouvel environnement à découvrir, auquel s'adapter. Et puis, après, voilà, la compétition approchant, le stress lié à la compétition, l'anxiété, la veille du match, et puis tout au long du tournoi, de la Coupe du Monde. Effectivement, tout ça, c'est des choses à anticiper et puis à gérer au mieux une fois que la compétition est lancée.
Tu me parlais, et tu l'as dit dans ton livre, des grands champions. C'est la thématique de ton ouvrage, « Dormez mieux grâce au secret des grands sportifs ». D'ailleurs, c'est très aguicheur parce que déjà dans le résumé, on voit les pratiques de certains qui sont un peu décriées. Ronaldo notamment, qui fait des cycles d'une heure et demie à deux heures de sommeil. vous connaissez le phénomène. Qu'est-ce qui différencie, du point de vue du sommeil, un grand sportif d'un coureur amateur, d'une personne lambda, quoi?
Ouais, effectivement, donc ça c'est comme tu dis, le titre qui est un petit peu aguicheur. Après, c'était vraiment l'objectif de faire part au plus grand nombre des dernières avancées scientifiques, parce que nous, à l'INSEP, on mène des recherches pour les sportifs de haut niveau. Mais voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir des applications pratiques, avant tout pour les sportifs, mais qui nous concernent tous. Et c'est vrai que toutes les stratégies que vous allez trouver dans le livre, elles s'appliquent
à tous.
À tous, voilà. Effectivement, c'est l'enjeu.
Johan, ton retour d'expérience, je le disais, 20 ans de haut niveau, on n'arrête pas de te chambrer en disant que tu es la marmotte d'RMC Running, un grand dormeur, un gros dormeur. Johan, le sommeil, c'est toujours primordial chez toi. Tu n'as jamais hésité justement à renforcer avec des siestes, à faire de longues nuits de récupération quand tu étais en prépa notamment, hein.
Ouais, alors honnêtement, je sais pas. Il me tarde de voir à l'après-carrière, voir quand je m'entraînerai plus, si je dors autant ou si c'est le fait que je m'entraîne deux fois par jour qui fait que j'ai ce besoin de récupération et de dormir énormément. Parce que tu vois, quand la sieste, pour moi, c'est pas, je fais pas la sieste juste par le plaisir de faire la sieste.
Ouais.
C'est parce que j'estime, enfin, je sens que c'est nécessaire, parce que sinon, je tombe du nez, enfin, je pique du nez, je suis pas bien à l'entraînement de l'après-midi. Alors à 16h, ça va aller, mais je vais vraiment avoir un coup de barre de 14h à 15h. Et puis, une fois que c'est ancré, une fois que tu as l'habitude, c'est dur de s'en passer. Et j'ai l'impression de beaucoup dormir parce que mon corps en a besoin. Tu vois. Et la question que je me pose, c'est le jour où je ne fais plus ce volume-là d'entraînement, ces heures-là, est-ce que je vais rentrer dans la moyenne normale des Français? Parce que moi, je dors, mes nuits, elles sont entre 9h au minimum et 10h30 au maximum. Et à cela, tu ajoutes une sieste de 45 minutes, quoi, presque. Donc, ça fait presque plus de 10h, 10h30 dans ma journée de sommeil.
Ah, c'est un bon exemple. Hein. 10h30 pour un sportif de haut niveau, toi, ça ne doit pas te choquer, en tout cas, les volumes.
Non, effectivement. Après, je pense que Johan est vraiment un bon élève. et puis, moi, il y a des choses qui me parlent dans son témoignage. C'est effectivement la place aujourd'hui de l'entraînement et de la fatigue, de la saine fatigue que ça crée. On parle de pression de sommeil. Donc, c'est vrai qu'on accumule une certaine pression de sommeil au fur et à mesure de nos activités. Et effectivement, pour un sportif de haut niveau, qui a une charge d'entraînement importante, c'est vrai que les besoins sont supérieurs. Ça a aussi été quelque chose de bien démontré, et je pense que ça, c'est important à retenir pour tous les auditeurs, c'est qu'une personne qui va avoir une activité physique régulière, sans parler forcément de sport de haut niveau, elle a un sommeil de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il y a différents stades de sommeil, on va sûrement y revenir, mais le sommeil lent profond, qui assure notamment la récupération physique, qui est notamment présent en début de nuit, les personnes qui sont actives régulièrement, elles ont un sommeil plus récupérateur, plus réparateur et plus riche en sommeil lent profond que les personnes sédentaires ou qui auraient juste un tout petit peu d'activité. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, Johan disait aussi qu'il a l'habitude de le faire, la sieste, il le fait de manière quotidienne ou quasi quotidienne. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a une certaine entraînabilité, par exemple à la sieste. C'est-à-dire que une personne qui va régulièrement s'installer dans de bonnes dispositions pour faire la sieste et qui en plus aura eu une dose d'activité physique ou un entraînement assez important, c'est vrai que c'est quelque part c'est un entraînement et la sieste ça s'entraîne aussi. Et trouver rapidement le sommeil, un sommeil récupérateur, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi.
Mais ça, c'est un socle commun pour tout le monde et je pense que tu vas nous en parler tout de suite. J'allais te demander les règles de base d'un sommeil de bonne qualité, mais déjà l'installation de routine dans son quotidien, ça c'est essentiel. Se coucher toujours dans les mêmes heures, comme disait Johan, si vous avez l'habitude de pratiquer la sieste, pareil, respecter la même durée à chaque fois sur chaque sieste. La routine est importante dans l'optimisation du sommeil et la récupération.
Ouais, effectivement, on parle de régularité, qu'il a, j'ai envie de dire, la règle d'or d'un sommeil de qualité. Plus vous allez être régulier dans vos horaires de coucher et de lever, plus vous allez jour après jour et nuit après nuit envoyer à votre cerveau le signal que l'heure du coucher elle approche, finalement l'heure de l'endormissement il approche.
Ouais.
Ça c'est un premier point. Si en plus vous arrivez à dormir en accord avec vos horaires préférentiels de sommeil, parce que certains sont plus couche tôt, lève tôt, d'autres plus couche tard, lève tard, votre sommeil va être d'autant plus récupérateur. Donc effectivement, être régulier, si possible dormir en accord avec ses horaires préférentiels de sommeil. Et puis ensuite, effectivement, la place des rituels, elle peut être pertinente. C'est-à-dire que ça va fonctionner sur le même mode, d'avoir toujours un petit peu les mêmes activités dans le même ordre. Le soir venu, inconsciemment, en fait, on rassure notre cerveau. Voilà, il est en terrain connu. Mmh. Et puis, on est sur un timing qu'on connaît. Et puis, voilà, on favorise la probabilité de s'endormir sereinement et rapidement.
On peut garder une vie un peu excitante. On n'est pas obligé de tomber dans un train-train quotidien et de faire toujours la même chose, rassure-moi.
Non, effectivement. Après, il faudra être vigilant quand même à assez vite rééquilibrer la chose. C'est-à-dire que, ben voilà, je vais prendre l'exemple d'une soirée qui traîne un petit peu ou quoi. Ben là, c'est vrai que, notamment...
Est-ce que ça se rattrape, le sommeil? Ça, c'est une bonne question.
Ben effectivement, et l'ajustement, il doit se réaliser rapidement, c'est-à-dire que entre l'heure de coucher et l'heure de lever, celle qui va synchroniser l'horloge biologique, c'est notamment l'heure de lever. C'est-à-dire que, voilà, parce que j'ai fait un petit peu la fête ou quoi, okay. Je me suis couché particulièrement tard, ben là, ça peut être bien quand même de venir mettre un réveil le lendemain.
Quitte à dormir moins sur une journée.
Effectivement, pas forcément aussitôt qu'on le ferait d'habitude, mais voilà, on va le décaler d'une, deux heures grand maximum par rapport à notre heure de lever habituelle. Ouais. Voilà, on va se lever, on va avoir peut-être un minimum d'activité dans la matinée, peut-être qu'on va profiter du début d'après-midi pour faire une sieste, on en ressentira peut-être le besoin.
Okay.
Et puis, le soir venu, le lendemain, on va plus vite retrouver le sommeil et retrouver son rythme. Et ça, c'est effectivement une bonne stratégie, plutôt que de se décaler de nouveau le matin, et puis d'être toujours, finalement, certains sont comme ça, toujours à la recherche finalement de leur rythme.
Ouais.
Et finalement, ça c'est particulièrement... problématique.
Ok. En termes de quantité de sommeil, parce qu'on a déjà tout entendu là-dessus, certains disent seulement 2 ou 3 heures de sommeil sont vitales et puis après le reste c'est que du confort. Ça, c'est un discours qu'on entendait beaucoup auparavant quand c'était pour déculpabiliser les gens de dire vous dormez pas beaucoup, oui mais à part 2 ou 3 heures c'est vital puis après je peux m'en sortir. Est-ce qu'il y a des règles comme ça de durée minimale de sommeil par nuit à respecter?
Ouais, les recommandations elles sont bien établies depuis quelques années maintenant. Donc pour un adulte, en fait, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par cycle de 24 heures.
Okay.
Dans la population, j'ai envie de dire, générale.
Okay.
Et c'est vrai que chez les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau, du fait de cette charge d'entraînement particulièrement importante qu'on expliquait tout à l'heure, on va aller chercher effectivement davantage, si c'est possible. Et il y a quelques travaux qui ont montré que c'est vrai que viser 9 à 10 heures, ça va favoriser les adaptations que l'on recherche via l'entraînement. On va davantage récupérer des 2, voire parfois 3 séances quotidiennes. Et finalement, effectivement, on va être dans de meilleures dispositions pour bien encaisser la charge d'entraînement, bien récupérer et puis performer le jour J en compétition.
Est-ce que c'est la même chose pour un coureur amateur qui se donne moins à l'entraînement, mais qui a toutes les contraintes professionnelles et personnelles à gérer aussi à côté, quoi?
Effectivement, il a une double vie, en tout cas un double projet pour certains, comme certains sportifs aussi de haut niveau. Il y a ce projet de performance et puis il y a le projet de formation pour les plus jeunes ou le projet professionnel pour les plus âgés. Mais être régulier sur son temps de sommeil, être vigilant sur le temps de sommeil qu'on obtient régulièrement, viser entre ces 7 à 9 heures et puis... peut-être parfois, à certains moments de la saison, je pense à l'approche d'une échéance, je pense à l'approche par exemple d'un marathon, être encore plus vigilant la semaine qui précède le marathon et de chercher un petit peu à augmenter ce temps de sommeil qu'on obtient de manière habituelle et routinière et d'aller chercher un petit peu plus puisque des travaux très récents montrent qu'on peut stocker du sommeil.
Ah,
donc, stocker du sommeil en anticipation d'une nuit notamment qui précède la compétition qui peut être plus courte.
Ouais. Ah, donc ça confirme aussi, parce que ça aussi on le dit beaucoup, Johan, et toi le premier, que la nuit importante, par exemple la semaine d'un marathon, c'est pas la veille, c'est l'avant-veille. Vous allez forcément mal dormir la veille du marathon, mais si vous faites une bonne nuit de sommeil le vendredi soir avec le marathon et dimanche matin, ça n'a pas une conséquence énorme, Mathieu.
Oui, et si on va encore plus loin, les nuits qui précèdent la compétition, toute la semaine finalement.
Toute la semaine, si tu dors bien, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas paniquer, même si on est un peu pris par le stress le samedi soir et qu'on n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas pour ça qu'on ne sera pas performant le dimanche matin, quoi.
Oui, tout à fait. Et surtout si l'affûtage a bien été réalisé, il y a moins de fatigue.
Ouais.
Donc finalement, effectivement, là, même si la nuit est un petit peu plus courte, on arrivera sans souci à la surmonter.
On parle de planification, là, c'est intéressant. Johan, là, en ce moment, on est à la mi-juin. Johan, il a un projet long qui est faire une grosse perf sur un marathon de décembre, a priori, à Valence. Donc, pour Johan, c'est-à-dire que là, il est dans toute une phase de développement général et tout. Son sommeil et la qualité de son sommeil sera plus crucial au moment du début de la prépa spécifique. Est-ce qu'il doit commencer à emmagasiner? Est-ce qu'il faut être régulier dès maintenant? Quel conseil tu lui donnerais, toi, le spécialiste?
Moi, je pense que le sommeil, il doit s'envisager à l'échelle de la saison. Et c'est vrai que voilà, c'est le risque un petit peu et le pendant que prennent certains coureurs, c'est de s'intéresser à leur sommeil seulement sur les phases un petit peu critiques. Exactement. Typiquement la prépa spécifique, les 3 mois qui précèdent le marathon ou autre. Ouais. Non, finalement c'est comme l'entraînement en fait. Le sommeil, il faut le raisonner, au quotidien, il faut le préserver et puis s'y intéresser toute la saison et puis même à l'échelle de la carrière pour un sportif de haut niveau. Ouais.
Yoann, comment t'analyses ton sommeil ? Est-ce que tu regardes juste les heures ? Parce qu'il y a eu la mode qui a un peu disparu ces derniers temps, je trouve, de qualité de sommeil. Certains dorment avec les montres et donc ont le chiffrage précis, la durée. On parlait justement des phases, des stades du sommeil dont Mathieu va nous parler dans un instant. Mais il y a aussi les bagues de sommeil, ça aussi, ça a existé. Est-ce que tu es vigilant par rapport à ça ou est-ce que tu te fais confiance et tu n'es pas trop à fond sur ce type de données ?
Non, bah après, moi j'ai eu les bagues, j'ai même un capteur Garmin de sommeil, comme un brassard que je peux mettre au bras.
Okay.
Mais en vrai, comme j'ai une excellente qualité de sommeil et que je dors, franchement, alors ça, c'est une question que je vais demander si c'est de l'inné ou si c'est quelque chose qui est travaillé, la qualité de sommeil. Parce qu'effectivement, moi je peux dormir n'importe où. Des fois, ça m'arrive, je fais un voyage, j'arrive, je suis claqué, il est 18h, je peux dormir un quart d'heure, 20 minutes, je me mets dans le lit, je dors un quart d'heure, 20 minutes à 18h et c'est pas pour autant qu'à 23h, je vais pas trouver le sommeil. Et ça, quand je dis ça à des gens, il y en a, ils me disent non mais c'est dingue quoi, c'est-à-dire que si la personne elle dort à 18h, jamais à 23h elle peut se rendormir et faire repartir sur un cycle de nuit classique. Et moi j'ai cette qualité de pouvoir dormir pas où je veux, quand je veux, mais honnêtement tu me mets un lit, là il est 11h32, bah franchement si tu mets un lit que t'éteins tout, que je me mets des bouts de caisse, c'est pas impossible que je m'endorme pas, tu vois. Et pourtant ce matin j'ai pas trop couru, j'ai juste fait 30 minutes de footing et ouais. Donc je suis pas nécessairement fatigué et j'ai pas l'impression d'être fatigué enfin je suis même pas du tout fatigué outre mesure de plusieurs mois de sommeil en manque ou quoi que ce soit, et donc j'ai cette capacité à bien dormir. Donc du coup ouais, à un moment donné je checkais quand même, mais c'était plus pour le plaisir de voir 10h30, 11h, qualité de sommeil 95%, trop bien et tout. C'était plus pour ma gloriole personnelle et me rassurer. Et puis en fait, après, j'ai arrêté et je me suis dit, tu dors très bien. T'as pas besoin d'avoir une appli pour regarder ça parce que je savais que je dormais bien. Mais je me demande si c'est une chance ou pas, ça. Enfin, si c'est de l'inné ou si c'est quelque chose...
C'est de l'inné alors, Mathieu ?
Ça fait partie des profils de quelques sportifs de haut niveau qui sont... particulièrement résilient par rapport au sommeil, c'est-à-dire je vais dormir dans un environnement que je connais pas trop, qui est pas forcément le plus favorable, mais bon, ça me dérange pas outre mesure, je trouve quand même mon sommeil, je m'endors relativement facilement. Voilà, des personnes qui sont aussi relativement flexibles, c'est-à-dire que
il y a un aspect de personnalité aussi,
tout à fait,
d'être détendu naturellement et de pas être une personne anxieuse et de pouvoir comme ça s'endormir n'importe quand.
Exactement, ça c'est des choses qu'on a pu montrer à l'INSEP, des travaux qu'on a fait avec des psychologues du sport, et on a montré qu'en fonction de la personnalité du sportif, ça va rejaillir sur sa qualité de sommeil et puis la façon dont il perçoit son sommeil.
Ouais.
Donc c'est intéressant ce que disait Yoann aussi. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent, mais c'est vrai que on est avant tout la première personne apte à juger la qualité de son sommeil.
Ouais.
C'est vrai que de régulièrement se demander le matin venu, comment est-ce que j'estime la qualité de ma nuit passée ? Tout à fait. Et puis le soir venu, voir aussi comment s'est passée ma journée. Est-ce que j'ai bien géré mes différents soucis ? Est-ce que j'ai bien géré les différents problèmes ? Comment ça s'est passé à l'entraînement pour le coup ? Et puis petit à petit, comme ça, d'essayer de faire le lien aussi entre son sommeil, comment ça se passe en journée. Je fais souvent le parallèle aussi avec évaluer sa charge d'entraînement, la cotation de l'effort, la perception de l'effort. Il faut en avoir fait des milliers au cours de sa carrière le plus fin possible dans l'évaluation. Le sommeil, c'est la même chose. Pour savoir si j'ai bien dormi, il faut s'y être intéressé régulièrement, essayer de régulièrement demander aujourd'hui, comment est-ce que j'estime la qualité de ma nuit passée ?
Voilà, l'auto-jugement, l'autodétermination de se dire est-ce que j'ai bien dormi, comment je me suis senti, comment je me sens au réveil, etc. Je voudrais juste insister avec toi sur les données, parce que moi, je fais partie de ceux qui dorment avec la montre. Donc, le premier réflexe que j'ai quand je me réveille et que ma montre me dit bonjour, c'est de regarder le score de sommeil. Tu vois,
là, j'étais encore là, ce matin. Et là, il n'est jamais bon.
Non, si, tu vois, là, sommeil 7h30, bon, sommeil profond, très long. Est-ce que c'est fiable déjà ? Est-ce que les montres, les bagues, les bracelets sont fiables ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ces données sont vraiment pertinentes à analyser, Mathieu ?
Alors, vaste sujet, parce qu'il y en a énormément des applications sur le marché. Il y en a plus de 100 000 des applications santé, et il y en a beaucoup qui évaluent la qualité de sommeil. Et parmi ces 100 000 applications, on estime qu'il y a moins de 5% qui est validé. C'est-à-dire que les données sont relativement fiables et en tout cas valides. Donc ça, c'est un premier point.
Okay.
C'est un potentiel problème, évidemment. Après, parmi tous ces outils, ben voilà, on en a cité quelques-uns. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont plus fiables que d'autres.
Ouais.
C'est un premier point. Être vigilant aussi sur qu'est-ce que ça vous donne comme données. C'est-à-dire que, notamment, les stades de sommeil, tu parlais tout de suite de sommeil lent profond.
Ouais.
Ben ça, c'est très difficile à évaluer. Il faut notamment passer par la polysomnographie, les électrodes sur la tête qui permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. C'est-à-dire qu'accéder au stade de sommeil dans lequel vous êtes uniquement grâce à du mouvement, hein, on parle d'actimétrie, de température ou de fréquence cardiaque ou même de variabilité de la fréquence cardiaque.
En fait, ce que fait la montre, c'est qu'elle cumule toutes ces données, elle estime que tu es en phase de sommeil profond quand ta fréquence cardiaque est très basse, que ta température corporelle a baissé aussi, etc.
Voilà, exactement. Elle estime sur la base d'algorithmes
voilà,
qui le protègent, en fait, sur lesquels on n'a aucun regard, nous, en tant que scientifiques.
Ok.
Et bah, c'est tout le problème, c'est-à-dire que voilà, il y a toujours une marge d'erreur associée. Donc je pense que ces outils, ils peuvent être intéressants dans une démarche de je m'intéresse à mon sommeil, voilà, je regarde comment ça évolue dans le temps, je cherchais peut-être à progresser. Mm-hmm. Mais pour revenir à cette question de la qualité de sommeil, moi je pense que voilà, se demander aussi et redevenir un petit peu maître aussi sur les données. Voilà, je pense que chacun de nous est le plus à même d'évaluer son sommeil et sa qualité de sommeil.
Ouais.
Donc vigilance, et puis d'autant plus qu'il y a un trouble aujourd'hui qui est apparu, un trouble psychologique. On parle d'orthosomnie, c'est-à-dire que certaines personnes sont tellement obsédées par les données de leur montre que voilà, ça crée une anxiété et une obsession. C'est un trouble psychologique aujourd'hui qui est reconnu. Ouais. C'est-à-dire que voilà, certaines personnes vont jusqu'à aller, dès qu'elles se réveillent, à checker, en fait, qu'est-ce que dit ma montre sur mon sommeil, alors qu'on n'est même pas sûr que c'est
des données. Vincent, lui, était venu nous voir il y a 2 ans, et il nous a expliqué ça. Il nous a dit, du jour au lendemain, j'ai arrêté les bagues, les bracelets et tout, parce que ça m'obsédait.
Exactement.
Quand je me réveillais, que je voyais que ma note de sommeil était faible, je me disais, je vais souffrir à l'entraînement. Et ça déclenchait tout un phénomène psychologique.
Et ça va rejaillir sur la journée,
et
on en parlait.
Tout à fait. Ouais.
Et c'est vrai qu'on parle aussi de sommeil placebo, c'est-à-dire qu'il y a des études magnifiques qui ont été menées en laboratoire, et en fait, qui ont montré que suite à une nuit de sommeil réalisée en laboratoire, en fonction du jugement que vont porter les expérimentateurs sur la nuit qui vient de s'écouler, typiquement, on va vous dire « Non, mais là, vous avez passé une nuit courte. En plus, le sommeil était fragmenté, de mauvaise qualité.
Ouais. »
Et ben ensuite, ça rejaillit sur les tests de performance qu'ils vont faire. Les tests de performance cognitifs, physiques.
Parce qu'il y a un aspect psychologique.
Exactement.
Ah, c'est fou.
Alors que concrètement, leur sommeil était peut-être en tout point correct. Donc,
ok.
Je pense qu'il faut, encore une fois, rester maître sur les données, prendre du recul par rapport à la donnée et exercer aussi son esprit critique. Surtout qu'on est déjà, abreuvé de données en lien avec l'entraînement, évidemment le travail, les données professionnelles. Et si en plus, le sommeil qui aujourd'hui reste encore un espace un petit peu préservé, petit peu sacré, si on vient aussi là... enregistrer et chercher à tout maîtriser, je pense que
on le sait quand on a mal dormi. Hein.
Oui,
quand tu tournes, tu vires dans le lit là, que tu sens que tu as du mal à t'endormir et à trouver le sommeil, tu le sais.
Tu te sens un peu, comment dire, dans le flou, dans le brouillard. Tu te dis, oulala, c'est. Et puis tu te le dis tout de suite, tu te dis, la journée va être longue. Tu te dis, oulala, alors là, ça va être délicat. Pareil, tu nous parlais des stades de sommeil. Est-ce que tu peux nous les décrire comme ça ? Parce c'est vrai que c'est des données qu'on commence à connaître grâce aux montres et aux applis. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, tout ça. Alors, quels sont les vrais stades à observer ?
Alors, typiquement, une nuit de sommeil, ça s'organise avec des cycles successifs, donc qui vont durer à peu près une heure et demie. Ça va évoluer un petit peu au cours de la nuit, mais voilà, votre nuit de sommeil, ça va être 4, 5, 6 cycles de sommeil en fonction de la durée de votre nuit. Et puis un cycle de sommeil, typiquement, ça passe par deux stades de sommeil dits lent-léger, donc c'est N1, N2, les stades. Puis on bascule, notamment en début de nuit, rapidement dans un stade de sommeil lent-profond. C'est le stade N3, particulièrement important pour la récupération physique notamment. Et puis le cycle, il se termine par du sommeil paradoxal. Vous en avez déjà entendu.
Ouais.
C'est le stade de sommeil souvent qu'on associe au rêve.
C'est ce que j'allais te dire. Souvent, on dit le sommeil paradoxal, c'est le moment où tu rêves.
Il y a beaucoup aussi d'études, de recherches sur les rêves. On se rend compte qu'on rêve aussi dans d'autres stades de sommeil. Mais c'est vrai qu'en sommeil paradoxal, les rêves, ils sont particulièrement vivaces. Et c'est aussi souvent ceux dont on se souvient au réveil, parce qu'en fin de nuit, on fait davantage de sommeil paradoxal qu'en début de nuit.
Okay.
Parce que ça, c'est aussi important à savoir. Une nuit de sommeil, typiquement, ça s'organise en deux moitiés principales. Une première moitié très riche en sommeil lent profond, avec aussi un petit peu de sommeil paradoxal.
Okay.
Et puis une deuxième moitié où il y aura beaucoup moins de sommeil profond, mais il y aura davantage de sommeil paradoxal, du sommeil léger aussi, des éveils. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes décalé, si vous êtes couché tard, peut-être parce qu'aussi vous avez eu entraînement ou autre, de traîner au lit le lendemain parce que vous êtes sur un jour de repos, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne stratégie.
Okay.
Parce que la deuxième moitié de la nuit, elle n'est pas très, très récupératrice. Il y a du sommeil paradoxal, il y a beaucoup d'éveil, il y a du sommeil lent léger. Donc, c'est mieux de venir mettre un réveil, comme je le disais tout à l'heure.
Ouais.
Et par contre, de remplacer ce temps que vous n'avez pas pris le matin par une sieste, parce que faire une sieste, c'est réenclencher un nouveau cycle de sommeil. Et surtout, si vous êtes en manque de sommeil, vous allez très vite accéder au sommeil profond.
Okay.
Et finalement, vous allez organiser différemment votre temps de sommeil, mais ce sera plus récupérable.
Parce qu'il y a plein de cas dont je veux te parler, notamment l'actu chaude qui est la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de passionnés de sport qui nous écoutent et qui ne veulent pas rater un match qui va se dérouler pendant la nuit. On parlait tout à l'heure d'Argentine-Algérie, par exemple, qui est à 4h du mat. Ou sinon, il y a les files à l'NBA avec Victor Wembanyama en ce moment. L'importance de la sieste, la durée idéale, toutes ces questions qu'on a dû poser 100 fois, mais qui sont essentielles. Parce que la plupart des gens disent, je ne peux pas faire la sieste, je n'ai pas le temps. Ou alors, je ne peux pas m'organiser, etc. Nous, à titre d'expérience personnelle, on a des gens qui dorment en plein open space parfois, sur un quart d'heure, 20 minutes, avec la veste sur la tête. Comme ça, c'est assez dingue. Quelles sont les règles d'une bonne sieste, alors ?
Alors, une bonne sieste, elle se réalise entre 13h et 16h.
Okay. Donc,
ça va être des fonctions de votre chronotype, c'est-à-dire que si vous êtes plus du matin, couche tôt, lève tôt, vous allez faire un petit peu plus tôt.
Okay.
Si vous êtes un petit peu plus un chronotype du soir, vous allez la faire plus tard. Il y a trois types de siestes qui sont généralement admises. Ça va être la sieste flash qui dure juste quelques minutes et qui a plutôt récemment prouvé des bienfaits aussi, notamment
ça a une utilité,
sur le système immunitaire, la vigilance. C'est-à-dire que les 1-2 heures qui suivent votre sieste flash, vous allez être plus vigilant, ça va vous donner un petit coup de boost.
Okay.
Donc ça, c'est intéressant. La sieste typique qui est le plus souvent réalisée, ça va être la sieste de 20-30 minutes, durée intermédiaire. Et effectivement, elle peut vous permettre de tenir l'après-midi, d'avoir un niveau de vigilance satisfaisant l'après-midi. Okay. Et puis la sieste dite royale, d'accord, ça va être un cycle complet
la
de sommeil.
Royale, ça c'est Yodu.
On en parlait. 1h30 à 2h.
C'est pas trop, parce que moi j'ai toujours lu que 30 ou 45 minutes c'était maximum, sinon c'est trop pour la sieste.
Alors, on va éviter la sieste de durée intermédiaire, à peu près une heure.
Okay.
Parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur les cycles de sommeil, une heure en fait, c'est le risque de se réveiller en plein sommeil lent profond, d'être vaseux au réveil, d'avoir du mal à émerger, on parle d'inertie de sommeil.
Okay.
Et les 1-2 heures qui suivent, c'est compliqué. Donc on va éviter cette durée intermédiaire.
Okay.
Mais par contre, sur le week-end, sur un jour de repos, lorsque vous en avez le temps et l'envie, qu'on parle aussi de sieste appétitive pour les gens qui font la sieste juste parce qu'ils y prennent du plaisir aussi.
Ouais.
Et là, un cycle complet de sommeil, ça peut être vraiment récupérateur. Et puis ça vous laisse dans un état de fraîcheur au réveil tout à fait satisfaisant.
Ce qui est intéressant dans ton ouvrage notamment, c'est que tu parles d'horaire d'entraînement, par exemple. Parce qu'on parle de cycles depuis tout à l'heure, les cycles de sommeil. Par expérience personnelle, moi quand j'ai débuté, on avait croisé Jean-Jacques Bourdin, qui a été un grand journaliste à RMC, qui a fait des 20 à 30 ans de matinale et qui nous expliquait que Dès qu'il loupait son cycle, c'était foutu. Il avait un cycle entre 20h et 22h, donc il avait vraiment envie de dormir. S'il dépassait, il n'avait plus à dormir. Là, c'était quasiment une insomnie pour aller travailler. Donc ça, tu pourras nous en parler. Mais tu parles de ça notamment, de ceux qui font des séances difficiles le soir, après le boulot, 19, 20h, 21h, des séances de fractionnés. Ça, ça peut perturber le sommeil aussi.
Ça peut perturber le sommeil, clairement. C'est des études qu'on a réalisées en laboratoire. On a réalisé un exercice d'intensité sur tapis roulant avec des coureurs bien entraînés en endurance. En fait, on avait mis l'exercice de 21h à 22h.
Ah ouais.
Derrière, on a enregistré le sommeil et on montrait notamment que la fréquence cardiaque était plus élevée la nuit suivante, la température corporelle aussi, elle était plus élevée. Donc potentiellement, effectivement, le sommeil peut être un petit peu perturbé. Après, il y a un grand nombre de coureurs, ils ne peuvent pas faire autrement, en fait. Ils s'entraînent avec le club, ils s'entraînent le soir. Et moi, le message que je fais passer, c'est continuez, en fait. Si c'est le seul moment où vous pouvez faire une activité physique, parce que certaines personnes aussi vont me dire, oui, mais moi, si je m'entraîne le soir, ça perturbe mon sommeil, du coup, je préfère pas y aller. En fait,
oui, bien sûr.
Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le long terme, en effet, en ayant une activité physique régulière, vous prenez soin de votre sommeil. Donc, sur le long terme, vous serez gagnant.
Ok.
Et puis, avec les chaleurs, des fois, l'été, avec les grosses canicules, il vaut mieux y aller à 21h qu'à 17h, qui fait 40 degrés. Hein.
Exactement. Et du coup, c'est de mettre en place des stratégies dès l'entraînement terminé, en fait, pour mettre le maximum de chances de son côté pour que la nuit se passe un minimum bien.
Se rafraîchir.
Donc se rafraîchir, effectivement, prendre une douche plutôt froide, venir chercher à diminuer un petit peu la température corporelle. Mmh. Ça, c'est un bon réflexe, encore plus en période de canicule. Ça va être aussi d'être vigilant sur le repas. Parce que le repas, normalement, il faut le prendre dans l'idéal 3-4 heures avant le coucher, ce qui n'est pas possible quand on vient de s'entraîner. Et
Ça veut dire moins manger ?
Moins manger, effectivement. Ouais, limiter l'apport calorique.
Okay.
Comme ça, on va finalement pas demander à son organisme et au système digestif
de travailler
sur les 3-4 premières heures de la nuit où effectivement, ça va avoir tendance encore à augmenter la température et puis garder un niveau d'activité qui ne va pas être forcément propice à une nuit de sommeil réparatrice.
Question bête, quelqu'un qui fait la sieste entre midi et 2, tu lui conseilles de le faire avant ou après manger ?
Alors, on associe souvent la sieste
à l'après repas du midi.
Après le repas du midi. Ouais. On se dit, j'ai mangé, du coup, là, j'ai un coup de barre. Et en fait, c'est principalement lié à une diminution de température corporelle qui est juste physiologique et qui explique ce creux de vigilance. C'est-à-dire que vous ayez mangé ou pas, vous l'aurez, ce creux de vigilance.
Okay.
Mais par contre, c'est aussi ce dont je parle dans le livre. Il y a tout un ensemble de stratégies nutritionnelles qui existent pour favoriser l'endormissement. Ou au contraire, favoriser la vigilance.
Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui favorisent l'endormissement ?
Effectivement, il y a des aliments qui favorisent l'endormissement. Ça va être notamment les aliments riches en tryptophane. C'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire qu'on le trouve uniquement dans notre alimentation. Et c'est un précurseur de la mélatonine. C'est-à-dire que si vous avez un apport adéquat de tryptophane, vous allez naturellement
dans quel aliment, par exemple ?
Synthétiser plus de mélatonine. Donc on va les trouver dans les graines de courge, les viandes blanches, typiquement le poulet, la dinde.
Ok.
On va le trouver aussi dans les bananes, les fruits secs.
Okay.
Et puis, il y a aussi des aliments sur lesquels on peut se porter. Ça va être le jus de cerise, qui est naturellement riche en mélatonine. Ah. C'est beaucoup utilisé par les équipes cyclistes sur le Tour de France.
On n'y aurait pas pensé au jus de cerise. Ok, c'est bon ça.
Ah si.
Ouais. Ok. Et tu connaissais le jus ?
Ouais.
Ok. D'accord.
Et aussi les aliments à index glycémique élevé, donc les pâtes blanches, le riz basmati, le soir venu, à la fois pour refaire ses stocks de glycogène, mais aussi favoriser la qualité de sommeil, ça peut être un bon réflexe.
Après, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est prendre plein de cas particuliers pour qu'on puisse élargir le spectre de ceux qui nous écoutent. Je vais te parler des jeunes parents, je vais te parler des personnes qui bossent en décalé, je vais te parler de tout ça. Juste pour terminer sur cette histoire de cycle, c'est vrai qu'il y a des routines qui s'installent. Et moi, je vais prendre mon cas personnel, mais je pense que ça concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai toujours cette espèce de coup de barre une fois que le dîner est passé, entre 21h30 et 23h, où là, je sens que je peux m'endormir en un claquement de doigts. Et si j'ai le malheur de m'endormir et que je me réveille, j'arrive plus à redormir après. Et ça, c'est toujours un problème. C'est comme si une fenêtre s'ouvrait. Tu la prends, tu la prends pas. Si tu la prends pas, t'es cuit. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe concrètement, ou est-ce que ça, c'est peut-être un peu de psychologique et de...
C'est vrai qu'on parle de train de sommeil.
Ouais.
Et c'est en lien avec les cycles que j'évoquais tout à l'heure.
Ouais.
C'est-à-dire que ben, peut-être sur le coup de 21h30, 22h, en fait, il y a un premier train qui passe. C'est-à-dire que si tu le prends, hop,
okay.
tu débutes son cycle et puis la nuit, elle est partie.
Ouais.
Par contre, ben, voilà, si tu, voilà, tu luttes un petit peu parce que ben, voilà, tu as envie, envie de regarder le match, tu as envie de regarder la dernière série. voilà, il voilà, y a quelque chose à vérifier sur le téléphone ou autre. On lutte un petit peu. En fait, hop, c'est passé.
Ouais.
Et il faudra attendre effectivement le cycle suivant.
Mais le pire pour moi, c'est pas de lutter, c'est de malheureusement t'endormir. Tu te réveilles et là, t'es foutu. Là,
bah ouais, effectivement. Tu t'es endormi.
Dans le canapé.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et typiquement, bah, c'est aussi le principe de la sieste. C'est-à-dire que tu as levé un petit peu de pression de sommeil.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, fin de journée, ta pression de sommeil, elle était forte.
Ouais.
Tu as dormi, je sais pas, 45 minutes, une heure. En fait, tu as levé la pression de sommeil.
Ouais.
Et donc finalement, il va falloir attendre que tu aies encore de nouveau. Une pression de sommeil suffisante.
Et j'attends. Pour... j'attends.
Et est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit comptent double?
Ah oui, c'est vrai. Yodi nous dit ça à chaque fois, c'est vrai.
Je sais pas, on m'a dit... j'entendais ça moi.
Alors c'est principalement une croyance dans le sens où finalement c'est pas les heures avant après minuit qui comptent, c'est est-ce que vous dormez en accord avec vos horaires préférentiels de sommeil.
Ouais. Ouais,
je reviens sur la question du chronotype. Le couche tôt, lève tôt. Bon, allez, typiquement qui va être sur du 21h30 5h30 du matin.
Ouais.
Ça, c'est sa nuit idéale.
Ça arrive ça, il y a des gens ça.
Bah oui.
Oui, oui, tout à fait.
Luigi, notre auditeur préféré qu'on embrasse et qui court tous les jours à 6h.
Et bien typiquement pour ces gens-là, effectivement, c'est important de prendre ce train du sommeil à 21h, 21h30, parce que ben voilà, s'ils s'endorment à minuit, en fait, ils ont loupé voilà, les trois premières heures pour eux, favorables en sommeil lent profond.
Okay.
Mais par contre, il y a aussi des chronotypes du soir, et il y en a aussi parmi les sportifs, ben voilà, pour eux, c'est 2h, 10h du matin, en fait.
Ouais.
C'est leur rythme.
Okay.
Et donc finalement, pour eux, ce n'est pas avant, après minuit qui compte, c'est est-ce qu'ils vont réussir à prendre leur train à 2h. Ou est-ce qu'ils vont encore le passer et attendre plus tard?
Ok. Est-ce que tu peux nous décrire les bienfaits concrets, physiologiques d'un bon sommeil? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'organisme, sur la récupération d'une grosse séance ou d'une compétition?
Alors, ils sont multiples, hein, mais on va faire relativement simple. Le sommeil lent profond que j'évoquais tout à l'heure, c'est principalement pour la récupération physique. C'est là qu'une grande partie de l'hormone de croissance, notamment, est sécrétée.
Ouais.
Donc ça va permettre ben, de cicatriser d'un point de vue musculaire. Vous avez fait une grosse séance, d'accord ? Vous avez des dommages musculaires. Ben, voilà, une bonne nuit de sommeil, ça commence par là, ça permet de bien cicatriser.
Donc si je suis blessé et que je suis en rémission d'une lésion musculaire, un bon sommeil va optimiser aussi la récupération ?
Ah oui, tout à fait.
Okay.
Ça a été aussi montré sur, ben, voilà, notamment en période de récupération, un apport de protéines adéquat juste avant le coucher. Ça va permettre de surfer aussi sur les vertus anabolisantes du sommeil, c'est-à-dire que vous avez apporté des protéines alimentaires,
okay.
Vous dormez bien, vous synthétisez davantage de fibres musculaires et vous faites plus de muscles.
Ok. La séance de sommeil, ou plutôt la nuit la plus importante, c'est avant la grosse séance ou c'est celle d'après?
Encore une fois, il n'y a pas de réponse. C'est envisager son sommeil vraiment à l'échelle de la saison.
Sur le long terme.
Okay.
Sur le long terme, tout à fait. Okay. C'est comme dans l'entraînement, il n'y a pas une séance magique, il n'y a pas une séance clé qui va faire toute la différence. C'est l'accumulation des différentes séances. Ben, c'est la même chose pour le sommeil.
Okay. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui vivent en décalé? On a encadré Awa, qu'on embrasse, sur la prépa du Marathon de Paris, qui est infirmière de nuit, qui fait des semaines à 4 nuits de boulot, donc qui fait 19h-7h, par exemple, et qui fait des semaines à seulement 3 nuits de boulot ou 2, où ça dépend vraiment, c'est un planning adapté chaque semaine. Qu'est-ce que tu lui conseillerais dans son sommeil déjà? Quelle est la meilleure façon de cumuler contraintes professionnelles, entraînement en course à pied et récupération?
C'est vrai que c'est un cas particulier, celui des travailleurs en horaire décalé, et notamment les travailleurs de nuit. Donc voilà, c'est... En général, leur sommeil est de moins bonne quantité, de moins bonne qualité, mais il y a tout un ensemble de stratégies aussi qui existent pour prendre soin de son sommeil, même dans ces circonstances-là.
Okay.
Ben, tout d'abord, ce sera l'idée peut-être de placer l'entraînement un petit peu plus tard dans la journée, parce que tu parlais effectivement de l'heure des entraînements.
En fait,
l'heure des entraînements va aussi jouer sur notre horloge biologique.
Okay.
Donc là, dans ce cas-là, effectivement, réaliser l'entraînement plutôt en fin de journée, peut-être même avant la prise de poste.
Donc avant le boulot.
Exactement. Okay. Ça va permettre d'être relativement vigilant en fait, sur son travail, sur sa nuit de travail.
Okay.
Et puis, encore une fois, ça va potentiellement favoriser, préserver la qualité du sommeil du petit matin. Et effectivement, chez les travailleurs en horaire décalé, on va chercher à mettre tout en œuvre pour préserver ces 5-6 heures de sommeil une fois rentré le matin.
Ok.
Pour réussir à avoir une après-midi la plus plaisante et la plus productive possible.
Quel message de soutien tu peux adresser aux jeunes parents qui nous écoutent, père et mère confondus? Parce que ça aussi, c'est une problématique de la vie. Hein. C'est jamais évident de se lever la nuit, donner le biberon, etc. Quelles sont là aussi les bonnes méthodes à mettre en place pour tenter d'avoir quand même une nuit, entre guillemets, optimale?
Un message d'encouragement, déjà.
Ouais, déjà, ouais, bien sûr.
Se dire que c'est temporaire.
Ouais, exactement, ça va passer, rassurez-vous. C'est pas pour toute la vie. C'est bon, ça.
On dit
toujours aux jeunes parents, vous dormez quand il dort, le bébé. Sinon, vous allez être cuit. Donc, est-ce que ça, c'est un bon conseil déjà?
Ouais, je pense que l'enfant, c'est aussi important de très vite le synchroniser sur l'alternance du jour et de la nuit. En fait, notre horloge biologique, elle est calée sur l'alternance du jour et de la nuit.
D'accord.
C'est-à-dire que le bébé, c'est vrai que voilà, quand c'est la journée, en fait, il faut aussi qu'il comprenne que c'est la journée. C'est-à-dire que peut-être que la sieste, plutôt que de la faire dans l'obscurité dans sa chambre, il va la faire dans le salon. Peut-être que voilà, à côté, vous allez passer l'aspirateur, vous allez peut-être faire un petit peu de bruit, vous allez quand même
empêcher
discuter.
Empêcher de dormir, voilà, ça c'est le premier conseil. Voilà.
Mais par contre, la nuit venue, effectivement, vous allez mettre toutes les stratégies, en tout cas, vous allez mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire le minimum de lumière, même si vous vous réveillez la nuit pour lui donner le biberon, c'est vrai que voilà,
on reste dans de l'obscurité.
Dans l'obscurité, okay. Effectivement. Et je pense que voilà, ça, voilà, c'est pas une science exacte, mais vous mettez les maximums de chances de votre côté que.
Mettez-le devant la télé la journée. Quoi.
Cette période.
À 3 mois.
Ouais, super.
Cette période soit la plus courte possible.
Mais tu me parles de cycle. Un bébé, un nouveau-né de jusqu'à 6 mois qui se réveille toutes les 3 heures, tes cycles sont complètement bousculés.
Ouais,
le
sommeil du nouveau-né, il n'a rien à voir avec notre sommeil à nous.
Non, mais je te parle du parent, moi.
Ah oui.
Le parent, pour qu'il ait une nuit de récupératrice, c'est quasiment impossible, en fait.
Ouais, c'est vrai que. En fait, il faut chercher au maximum à s'accrocher, encore une fois, à tout ce qu'on a pu évoquer au cours du podcast. C'est vrai que la nuit a pu être compliquée, mais bon, on cherche quand même à se lever, à garder un certain rythme. Alors quand on travaille, on n'a pas le choix, mais même en congé maternité, en congé paternité, en fait, il faut chercher à être le plus discipliné possible, j'ai envie de dire, sur ces questions des rythmes. Peut-être que voilà, la matinée va être difficile, mais peut-être qu'on aura l'opportunité de faire la sieste. Et finalement, on aura une demi-heure de sieste, mais ce sera beaucoup plus récupératrice que d'avoir traîné quelques heures le matin. Ouais. Y a aussi beaucoup de sportifs qui me disent ça. C'est-à-dire que tant qu'ils n'étaient pas en couple ou avec des enfants, ils avaient des rythmes relativement anarchiques. Et c'est vrai que l'avantage aussi de la famille,
ça c'est vrai,
ça cadre et ça apporte un petit peu cette rigueur sur les rythmes qui est encore une fois fondamentale.
Ça c'est sûr. Avant de parler des risques, justement, je voulais te parler de l'actualité de la Coupe du Monde, parce qu'on commençait à en sourire ensemble, mais il y a des matchs tout au long de la nuit, 21h, 22h, minuit, 2h, 4h du matin. S'il y a des matchs qu'on ne veut pas manquer, comment faire en sorte que le sommeil soit pas trop perturbé?
Vaste question. Je pense qu'il faut aussi faire des choix.
Faire des choix, exactement.
Il y en a beaucoup des matchs sur la Coupe du Monde. Il y a la NBA aussi.
Aussi, ouais.
Puis je pense que c'est important aussi de continuer à s'entraîner et puis d'être un minimum opérationnel aussi à l'entraînement. Donc je pense que ça, c'est important de faire des choix. L'actualité sportive.
Un match à 2h, je dors avant et je regarde le match. Je tiens jusqu'à 2h et après je rétrécis ma nuit. Ou qu'est-ce que je fais? Je me mets en réveil?
Ça dépend des chronotypes. C'est-à-dire que voilà, pour le chronotype du soir qui est plutôt couche tard, lève tard,
ouais.
Se coucher à 21h en prévision du match de 2h, ça va être compliqué pour lui de s'endormir.
Ouais.
Ça peut bien marcher par contre pour le chronotype du matin.
Ouais.
Donc on y revient. En fait, c'est ce qu'on et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on va s'organiser, si on aura la possibilité de faire la sieste, de compenser peut-être le week-end, parce que là, c'est aussi la stratégie que font beaucoup, c'est voilà, la semaine avec le travail, les enfants, les entraînements, ils sont en dette de sommeil. au cours de la semaine, au cours des 5 jours de la semaine. Par contre, le week-end, ils arrivent à compenser. Et ça, ben, voilà, ça peut permettre aussi de tenir.
Pour reparler des matinaliers en radio, parce que c'est pareil, hein, tu arrives au boulot à minuit et demi ou une heure. Moi, j'ai un exemple d'une femme qui m'expliquait il y a quelques années que parfois, elle reprenait un rythme normal le week-end et ça lui arrivait de s'endormir dans les toilettes des gens chez qui elle était invitée.
Ah oui.
La toilette à 19h, elle s'endormait, incroyable, ça lui est déjà arrivé, anecdote incroyable. Oui, les risques engendrés par un mauvais sommeil, sur l'entraînement notamment et la pratique de la course à pied. Qu'est-ce que ça peut engendrer? De la fatigue musculaire. Est-ce qu'on a plus de risques de se blesser quand on dort mal, par exemple?
Alors c'est encore quelque chose de débattu dans la littérature, hein, le lien entre manque de sommeil et risque de blessure. Il n'est pas clairement établi. Il y a quelques études qui tendent à montrer qu'effectivement, là, il y avait une étude récemment sortie sur 400 coureurs aux Pays-Bas qui avaient été suivis pendant un an. Et ils montraient que voilà, ceux qui étaient identifiés comme ayant une mauvaise qualité de sommeil, ils avaient 1,8 fois plus de risque de se blesser. Donc effectivement, souvent ce qui est avancé, c'est que ben voilà, vous avez mal dormi, du coup votre performance cognitive elle est moins bonne, votre temps de réaction il va être allongé, la prise de décision va pas forcément être la meilleure. Donc ça peut rejaillir sur le risque de blessure. Donc ça c'est un premier risque. Et puis ben encore une fois hein, sur envisager l'entraînement sur le long terme, ben potentiellement voilà les adaptations que l'on recherche par l'entraînement en fait voilà vous avez une séance spécifique, on va rechercher tel type d'adaptation. Ben si le sommeil qui précède, le sommeil qui suit cette séance là, il n'est pas forcément adapté, ben on va peut-être pas retirer le maximum en fait de cette séance d'entraînement. C'est aussi je pense savoir sur le long terme, bah savoir peut-être réguler un petit peu le contenu des séances, l'intensité que je vais mettre à l'entraînement, aussi sur la base de mon niveau de fatigue et de la qualité de mon sommeil. Et ça, je pense que voilà, c'est un petit peu le duo gagnant, charge d'entraînement, récupération adaptée, et comment je les fais évoluer de manière synchrone pour viser la performance et puis le bien-être au quotidien.
Une question qui concerne nos amis trailers, notamment ceux qui pratiquent l'ultra trail ou alors les grosses distances. Parfois, on fait du 24 heures de course à pied, donc ça veut dire une nuit sans dormir ou en adaptant le sommeil aussi. C'est toujours la problématique parce que nous, on voit les élites qui font ces épreuves en moins de 24 heures, mais il y a tout le reste du peloton qui va passer une à deux nuits dehors sur des épreuves folles comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous. Comment on s'entraîne à ce type d'effort, à entraîner son corps, à ne pas céder, à seulement se dormir sur des courts cycles de récupération?
Dans le livre, il y a notamment le témoignage de Mathieu Blanchard, avec qui j'avais échangé. Donc, lui, c'est vrai que il l'avait rapidement identifié comme un déterminant et un levier de performance fort. Donc, il s'était intéressé. Dans le livre, il dit ça m'a mis à peu près un an à revoir un petit peu toutes mes habitudes de sommeil. Il avait cherché à tout optimiser. Ils vont notamment surfer un peu sur cette stratégie dite de sleep banking, de stockage de sommeil. Donc effectivement, chercher à stocker du sommeil avant de partir.
Jusqu'à l'épreuve, et puis après, tu sais que tu t'auras deux nuits compliquées.
Enfin, exactement. Et c'est vrai qu'on parle souvent des tout meilleurs, ceux qui sont en haut de l'affiche, mais je te rejoins tout à fait, ceux qui mettent deux fois plus de temps à réaliser l'épreuve, pour eux, c'est un enjeu encore plus fort.
Le bon conseil concret, c'est des petites siestes de 10 minutes. C'est quoi? C'est renforcer la vigilance, comme tu me le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une bonne manière d'ailleurs d'affronter tout ça?
C'est vrai qu'il faut s'y pencher à l'entraînement, il faut tester les stratégies, on teste systématiquement sa stratégie de ravitaillement avant de prendre le départ de la course. C'est du même acabit parce que c'est dommage d'avoir mis tant d'énergie dans une préparation et puis de se retrouver le jour J un petit peu démuni par rapport à un gros coup de pompe, à la nécessité de dormir sur le sentier ou autre. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Et puis je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des navigateurs en solitaire. On travaille aussi avec des navigateurs en solitaire qui, par exemple, typiquement sur le Vendée Globe, en fait.
Oui, on a reçu Violette d'Orange il y a quelques semaines.
Ok.
La gestion du sommeil, oui, c'est quelque chose.
Ils vont adopter un sommeil dit polyphasique, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les épisodes jusqu'à 40 épisodes par jour de courtes siestes, d'épisodes de sommeil. Et en fait, ils arrivent...
Je le perds au bout de deux jours. Ouais. Laisse tomber, là.
Et finalement, ils arrivent sur la durée du Vendée Globe à atteindre, pour certains, en fait, des durée de sommeil journalière quasi similaire à ce qu'ils obtiennent sur Terre.
Parce qu'il n'y a que des petits épisodes comme ça. Fractionné de sommeil. Quoi.
Exactement.
Ouais, c'est dingue. Alors là, ton histoire de cycle et tout, c'est plus dur. Vous avez vu le sommeil profond, paradoxal et tout. C'est...
Mais c'est vraiment voilà, une stratégie en mer. Et puis une fois revenu à terre, en fait, ils retrouvent un sommeil calé sur l'alternance du jour et de la nuit. Et un sommeil dit monophasique, une nuit de sommeil.
Ouais. Yodu, est-ce que tu avais encore une question sur le sommeil et la performance et
ah, moi, c'était juste par rapport à... Je me suis rendu compte que les mauvaises nuits que je passais, alors je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais c'était les jours de pleine lune. Il y a une histoire là-dessus ou c'est vraiment que pareil
Légende urbaine.
Légende urbaine.
Ouais, c'est principalement du domaine de la croyance. Après, c'est vrai qu'il y a certains cycles qui sont calés sur le cycle lunaire. Mais voilà, que ce soit le sommeil influencé par la pleine lune ou le fait de dormir avec c'est la tête toujours, de lit vers le nord ou autre, ça reste principalement du domaine des croyances et par légendes urbaines. Ouais.
L'altitude joue, parce que moi, je sais qu'en altitude, la première nuit, dors comme un bébé. Et la deuxième, elle est toujours un petit peu plus compliquée comme ça. La troisième aussi, et après ça se cale tout seul. Ouais.
Oui, l'altitude et la haute altitude notamment peut perturber le sommeil, et c'est la raison pour laquelle, voilà, avec les sportifs de l'équipe de France, lorsqu'ils sont en stage d'entraînement en altitude, typiquement à Font-Romeu, on va aussi chercher à réguler le niveau d'altitude, notamment simulé en fonction de leur réponse physiologique et en fonction aussi de la qualité de leur sommeil. Mais oui, l'altitude impacte le sommeil.
Mathieu, c'était passionnant de t'écouter. Un grand merci, tu reviendras.
Et ayez une bonne literie. On n'en a pas parlé, la literie, c'est ce qui
essentiel.
Fait la qualité du sommeil.
Oui, tout à fait. Et là, je pense à Dante, le capitaine de l'OGC Nice, qui vient de quitter Nice après 14 ans, je crois, passé à Nice, qui avait cette particularité, il emmenait son oreiller partout. Parce qu'il dit, ça paraît tout bête, mais un mauvais oreiller, ça peut te gâcher ta nuit.
Ah ouais, quand
dans les hôtels
gros,
en mise au vert, donc il a toujours son oreiller. Bah oui, oreiller perso.
Ouais, dans
comme
les
ça, t'es
hôtels,
sûr que t'es pas déçu. Autant le matelas peut être mauvais, autant l'oreiller, t'auras le tien. Ça paraît tout bête, hein, mais...
Non, c'est vrai.
Mais voilà, c'est un bon conseil. Mathieu Ledeneck, merci beaucoup. Je rappelle que tu es docteur en sciences du sport, chercheur chargé de la récupération et du sommeil à l'INSEP. On va offrir un ouvrage, et merci à toi d'ailleurs de nous le faire parvenir. Dormez mieux grâce au secret des grands sportifs. Voilà, on peut le retrouver en librairie toujours et sur Internet. C'est toujours en vente.
Oui, oui.
Un ouvrage à gagner pour la communauté RMC Running. Vous allez sur Instagram et vous participez au tirage au sort. Merci Mathieu, tu reviens quand tu veux. Merci au maître Yodu, toujours aussi pertinent et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous dormez ou alors quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.